France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Xavier Atto, Antoine Giraud et Olivier Dehay. Voici la première émission d'une série que nous allons consacrer au violoniste américain Michael Rabin, disparu il y a 50 ans, le 19 janvier 1972. Et seulement âgé de 35 ans, un traumatisme crânien provoqué par une chute dans son appartement de New York a engendré sa mort. New York, c'est sa ville natale. Et ce, après une vie marquée par l'excellence musicale absolue, mais aussi par la dépression chronique. Et les archives sonores nous permettent de retrouver le son incroyable de ce musicien hors norme, Michael Rabin, notamment les archives de la radio américaine. Et je laisse mon confrère de l'émission The Bell Telephone Hour vous en dire plus. Nous sommes là le 17 décembre 1951 au Carnegie Hall de New York. Michael Rabin n'a que 15 ans.
It's the Telephone Hour, presenting Michael Rabin. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight we welcome you from New York's Carnegie Hall. We're happy to present again on the Telephone Hour our talented 15-year-old violinist, Michael Rabin. For his first selection, Michael has chosen a meditative piece by Johannes Brahms. In a setting by Yasha Heifetz, we hear Contemplation, Michael Rabin.
C'est au grand violoniste Yasha Heifetz que l'on doit cet arrangement du premier des Lieder opus 105 de Johannes Brahms, Wie Melodien sieht es mir, un arrangement surnommé Contemplation, et que l'adolescent Michael Rabin jouait donc ici en 1951 au Carnegie Hall de New York avec l'orchestre de l'émission The Bell Telephone Hour, dirigé par un certain Donald Voress. Michael Rabin, de son vrai nom Rabinowitz, né le 2 mai 1936 à New York, sous la présidence de Franklin Delano Roosevelt. Michael Rabin, dont les deux parents étaient musiciens professionnels, le père, George Rabin, violoniste de l'Orchestre Philharmonique de New York, nous y reviendrons, et la mère, Jeanne Rabin, qui était pianiste. Est-ce qu'on l'entend ? On l'entend, elle, Jeanne, dans les tout premiers enregistrements de son fils, comme ici cette mélodie de Heinrich Schalit, qui rend hommage aux racines juives de la famille Rabinowitz.
Thank you.
14 décembre 1947, Michael Rabin, âgé de 11 ans et demi, était accompagné par sa mère, Jeanne Rabin, au piano, dans cette sérénade sur un chant populaire juif de Heinrich Schalit, compositeur qui fut longtemps organiste de la Grande Synagogue de Munich jusqu'en 1933, puis directeur musical de la synagogue de Rome jusqu'en 1940, année de son arrivée aux États-Unis. Et c'est donc à lui, à ce Heinrich Schalit, que l'on doit cette sérénade jouée par le jeune Michael. Alors, vous avez fait la connaissance musicale de la maman, voici le papa, cette fois-ci, au milieu d'autres instrumentistes, puisque, comme je vous le disais, Georges Rabin était lui-même violoniste et membre du très prestigieux orchestre philharmonique de New York. Et le 10 avril 1936, Madame Rabin était déjà très enceinte, puisque Michael va venir au monde le 2 mai. Donc le 10 avril 1936, Monsieur Rabin se produisait avec ses collègues au Carnegie Hall de New York, sous la direction du directeur musical de l'époque, qui n'était autre que Monsieur Arturo Toscanini, dans cette partition que vous allez peut-être reconnaître.
Thank you.
Madame Rebin, enceinte de 7 ou 8 mois, était-elle dans la salle au moment où son mari George jouait avec les autres violonistes du New York Philharmonic sous la direction d'Arturo Toscanini dans la 7e symphonie de Beethoven dont nous écoutions le final? C'est fort possible, c'est donc une musique que Michael Rebin a entendue in utero, comme on peut l'imaginer, et à sa naissance le 2 mai 1936, peut-être George, le papa, déclara-t-il « tu seras violoniste comme moi, comme papa ». Quoi qu'il en soit, c'est ce qui arriva, papa au New York Philharmonic, maman pianiste à la Juilliard School. Le destin de Michael Rebin était tout tracé, et c'est à la Juilliard School qu'il va faire ses études. Sur les conseils de Yasha Eifetz, que la famille avait consulté, il va travailler sous la direction de Ivan Galamian, que connaissent bien les étudiants en violon pour ses différentes méthodes. Et je vous propose d'écouter Michael Rebin dans un enregistrement domestique imparfait, mais qui va nous permettre de l'entendre un peu travailler avec sa mère Jeanne Rebin au piano. Quelques instants de la symphonie espagnole d'Edouard Lalo. Première note du rondo final de la symphonie espagnole d'Edouard Lalo avec Michael Rebin, le 19 décembre 1947 dans le temple Bethel de Rhode Island, avec au piano sa maman Jeanne Rebin. Et bien la même année, il se produisait avec ce fameux orchestre Bell Telephone Hour, orchestre radiophonique dirigé par Donald Voris, dans cette même partition. Après l'enregistrement domestique, voici le grand public.
Thank you.
9 juillet 1951, Michael Rabin, âgé de 15 ans, était accompagné par l'orchestre The Bell Telephone Hour, dirigé par Donald Vores, dans la symphonie espagnole, l'opus 21 d'Edouard Lalo, dont c'était le rondo final.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors après ces craquements des années 40-50, on va entendre un enregistrement de son parfait des années 60, EMI, un enregistrement réalisé avec l'orchestre Philharmonia dirigé par Eugène Goossens et qui nous permet d'avancer dans la carrière, la courte carrière, trop courte carrière de Michael Rabin. Il a cette fois-ci 24 ans et interprète une partition qui a été très souvent, trop souvent à son goût, au répertoire. On viendra un peu à la fin de cette émission sur la lassitude de Michael Rabin, sur sa carrière et sur les œuvres qu'on lui demandait sans cesse. Il y a des partitions qu'il voulait jouer un peu plus, mais celle-là, on lui demandait sans arrêt ce deuxième concerto pour violon de Wieniawski. C'est une œuvre très séduisante, il est vrai, composée un siècle avant cet enregistrement de 1960 et dédiée au grand violoniste Pablo de Sarasate.
Thank you.
Perfection, vous dis-je. Allegro con fuoco, le final du second concerto de Henryk Wieniawski par Michael Rabin en 1960 avec l'orchestre Philharmonia dirigé par Eugène Goossens. Le mois de mai dernier, Jean-Charles Flet dans Classica faisait cette évocation d'un série de 14 CD qui sont parus de Michael Rabin, The Art of Michael Rabin, paru chez Scribendum de 1949 à 1970. Michael Rabin était né armé en perfection, justesse parfaite, archer voltigeur, cantabilé de chanteur, chanterelle de rossignol, sonorité portant loin. Dès 1949, la Columbia le sacrait prince des violonistes en éditant des caprices de Paganini qui firent l'effet d'une bombe. Eh bien, les voici, ces caprices, alors pas les 24, mais j'en ai choisi 3 pour vous, le premier, le cinquième et le neuvième.
Thank you.
Des appels de corps dans ce 9e caprice de Niccolo Paganini. On a entendu tour à tour le 1er, le 5e et le 9e des caprices opus 1 de Niccolo Paganini par Michael Rebin, que j'évoquais dans cet article dans Jean-Charles Offlet paru en mai dernier chez Classica. Article dont je poursuis la lecture. L'Amérique avait trouvé son nouveau High Fets. Une carrière d'emblée prodigieuse propulsa ce gamin de 13 ans dont la sonorité immense et la perfection bluffaient les orchestres. Les maisons disques se précipitèrent, Capitol lui offrant d'enregistrer concertos et pièces de virtuosité, l'occasion d'exposer dans les deux genres la même pureté de style, la même élégance. Son récital, dirigé par Leonard Slatkin, sera un best-seller absolu et demeure l'un des plus brillants albums de l'histoire du violon. On l'entendra en partie demain. Plus stupéfiant encore, la clarté polyphonique qu'il obtient dans la troisième sonate de Bach révèle au-delà du virtuose un musicien de première force. Ça, c'est prévu dans une vingtaine de minutes. Au leg discographique, poursuit Jean-Charles Offlet, Scribendum, la maison de disques qui vient de faire paraître ses 14 CD, ajoute des captations en concert le montrant aussi parfait qu'au studio et jusqu'à la coda de sa trop courte carrière lorsqu'il reprit le chemin de la scène après avoir surmonté sa dépression. Il y a par exemple le concerto de Brahms avec Kubelik à Chicago ou son archer Hard. Hard, du verbe harder, donc brûler avec ardeur. Eh bien, on va l'entendre brûler avec ardeur en 1967, Michael Rabin, dans le premier mouvement de ce concerto opus 77 de Brahms. Dans ces trois émissions, je lui consacre, on écoutera l'intégralité du concerto de Brahms, mais dans trois enregistrements différents. On commence donc en 67 dans cet enregistrement réalisé en public avec l'Orchestre symphonique de Chicago, dirigé par Raphaël Kubelik. Vous écoutez France Musique. 1967, au festival de Ravinia, l'Orchestre symphonique de Chicago était dirigé par Raphaël Kobelik pour accompagner Michael Rabin dans le concerto pour violon de Brahms, l'opus 77, dont nous écoutions le premier mouvement avec la cadence de Joseph Joachim, le festival de Ravinia, qui est le festival estival en plein air de cet Orchestre symphonique de Chicago. Nous écouterons la suite et la fin de ce concerto demain et après-demain. Demain avec le mouvement lent accompagné par l'Orchestre symphonique de San Diego et mercredi le final avec l'Orchestre du Telephone Bell.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Voici maintenant Michael Rabin, certes virtuosissime dans les mouvements rapides, mais également immense musicien dans certains mouvements lents, comme cet adagio de la troisième sonate en Do majeur, BWV 1005 de Jean-Sébastien Bach. Nous sommes là en 1955.
Thank you.
C'était l'adagio qui ouvre la troisième sonate pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, BWV 1005, en do majeur par Michael Rabin en 1955. Isaac Stern témoigne de l'admiration qu'il avait pour Michael Rabin. Il témoigne également de la souffrance de Michael Rabin, de la dépression, de la pression des concerts, mais également de la déception face à certains impresarios qui lui demandaient presque toujours les mêmes concertos en concert. Paganini, Wieniawski, certes séduisant, mais un peu superficiel par rapport à d'autres œuvres comme le concerto de Beethoven que Michael Rabin aurait aimé jouer davantage. Et puis il y a cet âge fatidique, 35 ans, l'âge de la mort de Michael Rabin, ce qui fait quand on parle de la fin de sa carrière, on a froid dans le dos. Songez que l'enregistrement que je vous propose d'entendre maintenant est de 1969, il n'a que 33 ans et il lui reste quelques mois à vivre, quelques courtes années à vivre. C'est le premier concerto de Max Bruch qu'on va écouter dans des enregistrements tirés des archives de la radio berlinoise RIAS, la radio dans le secteur américain. RIAS, la radio allemande, qui était dirigée ici par Thomas Schippers, le final du premier concerto en sol mineur de Max Bruch par Michael Rabin. Applaudissements du public berlinois pour Michael Rebin en 1969, juin 69. L'orchestre symphonique de la radio RIS était dirigé par Thomas Schippers dans ce premier concerto en sol mineur, l'opus 26 de Max Bruch, dont c'était le final. Michael Rebin qui avait profité de sa présence à Berlin pour enregistrer en studio une partition qui rend hommage à son sol natal aux États-Unis. C'est une petite pièce de virtuosité de William Kroll, qui était un violoniste virtuose, quartettiste également, fondateur de plusieurs quatuors à cordes. Et cette partition intitulée Banjo and Fiddle a été jouée par Kreisler, par Heifetz et puis également par notre Michael Rebin, Banjo and Fiddle, Fiddle désignant le violon. Voilà ce qui fait partie de ce qu'on appelle en anglais les encore, donc les bis. C'était Banjo and Fiddle de William Kroll avec le pianiste Lothar Brodack accompagnant à Berlin en 1969 Michael Rebin. Voici une autre de ces pièces, de ces petites pièces de complément, je dirais. Cette fois-ci, c'est une partition lente et même plus que lente, puisque c'est la plus que lente partition de Claude Debussy qui indique molto rubato con morbidezza. Alors morbidezza, ce n'est pas la morbidité, il ne s'agit pas d'être morbide, mais plutôt la morbidesse, un terme italien, morbidezza, qui désigne une sorte de beauté sublime et un peu compassée, comme dans les toiles de Botticelli. Voici Michael Rebin en compagnie du pianiste Léon Pommers. C'est dans les studios de Capitol qu'en 1959, Michael Rabin avait enregistré La plus que lente de Claude Debussy sur un Guarnerius del Gesù, grâce à deux Léons. Léon Rock, compositeur français qui a fait la transcription pour violon et piano de cette pièce de Debussy, et Léon Pommers qui était au piano, et que nous allons retrouver encore une fois aux côtés de Michael Rabin pour terminer cette première émission avec Burlesque opus 17 de numéro 4 de Josef Suk. Elles y étaient toutes, pas une ne manquait. Je parlais des mille et une notes de ce Burlesque opus 17 numéro 4 de Josef Suk par Michael Rabin au violon et Léon Pommers au piano. Bonjour Lionel Esparza.
Bonjour François-Xavier Chemchak. On poursuit avec Michael Rabin demain.
Absolument. Mozart, Beethoven, Mendelssohn, des partitions de Tziganes et puis un merveilleux duo avec un autre grand violoniste, Zino Francescatti.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.